Sixième partie. Capitaine Silver. Chapitre 28. Dans le camp ennemi. La lueur du Brandon révèle à Jim que ses pires craintes sont devenues réalité. Les pirates sont maîtres des lieux et des provisions. Mais s'il y a le tonnelé d'eau-de-vie, le porc et les biscuits, on ne voit pas de prisonniers. Jim en déduit que ses amis ont péri, d'où son remords de n'avoir pas été là pour mourir avec eux. Les boucaniers sont 6 en tout et pour tout. 5 sont debout. Un autre, très pâle, a pu seulement se soulever sur son coude. Silver lui-même, son perroquet sur l'épaule, semble moins fringant qu'auparavant. « Tiens, Jim Hawkins, dit-il, quelle surprise tu fais au vieux John. Je peux dire que dès le début, je t'ai pris pour un malin. Mais là, tu me lessives. » Tant bien que mal, Jim gâche son désarroi. « Enfin, puisque t'es ici, reprend Silver. « Moi, j'ai toujours eu envie de t'avoir avec nous. Et là, t'as plus le choix. Le capitaine, tu sais comme il est sec sur la discipline. Alors un conseil, l'approche pas. Même le docteur est fâché à mort. Canaille, ingrat, il a dit de toi. Tu vois, tu peux plus revenir avec eux. Te reste qu'à te joindre au Captain Silver. » Jusque-là, tout va bien, mes amis sont vivants, songe Jim, enfin soulagé. Il demande. Avant de répondre, il me faut savoir ce qu'il se passe. Pourquoi vous êtes ici et où sont mes amis ?
Hier matin, monsieur Hawkins, répond Silver, le docteur est descendu avec un drapeau blanc. Vous êtes cuit, il m'a dit, le bateau est parti. Nous l'avions pas remarqué, mille tonnerres, c'était vrai, le vieux Rafio était parti. Alors nous avons traité, et voilà où on en est. Les provisions, l'eau de vie, la baraque et tout. Eux, ils sont partis. Et j'ai pas idée où.
C'est tout, demande Jim ?
C'est tout, dit Silver. À présent, faut choisir. Avant, il y a une chose ou deux que je veux dire. La première, c'est que vous êtes mal barré. Le bateau est perdu, le trésor est perdu, vos amis sont morts.
Jim sent une étrange excitation le pousser.
Et si vous voulez savoir à qui vous devez tout ça, eh bien, c'est à moi.
J'ai entendu votre conversation, John, avec Dick Johnson et Israel Hans, et j'ai tout répété. Pour la goélette, c'est moi qui ai coupé la mare. J'ai tué les hommes que vous aviez laissés à bord, et j'ai amené le bateau là où vous ne le reverrez pas. C'est à moi de rire. Depuis le début, j'ai le dessus, et j'ai pas plus peur de vous que d'une mouche. Tuez-moi si vous voulez, ou épargnez-moi. J'ajouterai une chose. Quand vous passerez en jugement, je ferai mon possible pour vous sauver. À vous de choisir. Tuer une fois de plus, et ne pas arranger vos affaires, ou m'épargner en me gardant comme témoin, et vous sauver de la corde.
Jim s'arrête, hors de souffle. Les pirates médusés ne réagissent pas tout de suite. Puis...
C'est aussi lui qui l'a reconnu.
C'est aussi lui qui l'a reconnu, chien noir à la longue vue, finit par dire le vieux Morgan.
Et qui a volé la carte du vieux Bill, dit Silver. En fait, nous avons toujours dérapé sur Jim Hawkins.
Alors, à mort, dit Morgan en ouvrant son couteau.
Bas les pattes, crie Silver. Qui tu crois que t'es, Tom Morgan? Tu te prends peut-être pour le capitaine ici. Mais mille tonnerres, je vais te mettre au parfum. T'apprendras à pas me contrarier. Ou alors je t'envoie là où beaucoup sont allés depuis ces 30 dernières années. Tu peux me faire confiance, Tom Morgan.
Pourtant, la raison, Morgan, dit un des boucaniers.
J'ai supporté qu'on me bouxule assez longtemps, dit un autre. Alors que je sois pendu si je me laisse bouxuler par toi, John.
Ah, dit Silver. Qui veut sortir avec moi au couteau?
Personne?
Alors faudra m'obéir.
Et laisser ce garçon tranquille. Il me plaît à moi.
C'est davantage un marin que n'importe quel rat dans votre genre.
« Tu parles bien, Silver, dit un des pirates qui s'est tué jusqu'alors. Mais tu joues un peu trop malin. Cet équipage a des droits, lui aussi. En particulier, le droit de sortir pour délibérer. »«
Pas vrai? Alors moi, je sors. »«
Conseil de gaillard d'avant, crie Morgan. »
Et les boucaniers sortent ensemble du fortin. Chapitre 29. À nouveau la tache noire. Le conseil des boucaniers durait depuis quelque temps, quand l'un d'entre eux est entré dans le fortin, et en répétant le même salut qui, à mes yeux, avait quelque chose d'ironique, a demandé qu'on lui prête une torche un moment. Silver a acquiescé, et l'émissaire s'est retiré en nous laissant tous les deux dans le noir.
« Le vent se lève, Jim, » a dit Silver, qui à ce moment-là avait adopté un ton plutôt amical et familier.
Je me suis tourné vers la meurtrière la plus proche, et j'ai regardé dehors. Le grand feu avait fini de se consumer. Les braises luisaient si faiblement que j'ai compris pourquoi les conspirateurs avaient besoin d'une torche. Ils s'étaient regroupés à peu près à mi-pente. L'un d'eux tenait la torche, un autre était à genoux au milieu, et j'ai vu la lame d'un couteau briller dans sa main, en prenant différentes teintes selon que la lune ou la torche l'éclairait. Les autres se tenaient un peu penchés, comme s'ils observaient les faits et gestes de celui qui était agenouillé. J'ai juste pu voir qu'il avait un livre à la main, en plus du couteau, et je me demandais encore comment quelque chose d'aussi incongru pouvait être en leur possession quand il s'est relevé. Tout le groupe s'est alors dirigé vers le fortin. « Les voilà !» ai-je crié tout en revenant prendre ma place, car il me semblait au-dessous de ma dignité qu'il me trouve en train de les épier. « Eh bien, qu'ils viennent, fiston !» a dit Silver joyeusement. « Qu'ils viennent ! J'ai encore une cartouche en magasin !» La porte s'est ouverte. Les cinq hommes se sont regroupés, sitôt passé le seuil, avant de pousser l'un des leurs en avant. Dans d'autres circonstances, j'aurais trouvé la scène comique de le voir avancer lentement, hésiter à poser un pied devant l'autre, tout en tenant son bras droit tendu, le poing fermé. « Approche, mon gars !» a crié Silver. « Je te mangerai pas !»« Donne-la-moi, marin d'eau douce. Je connais les règles, fais-moi confiance. Je ferai pas de mal à un embrassadeur. » Ainsi encouragé, le boucanier s'est avancé plus vite. Après avoir fait passer quelque chose à Silver de la main à la main, il est reparti encore plus rapidement rejoindre ses compagnons. Le coq a regardé ce qu'il lui avait remis. « La tache noire, comme je pensais, a-t-il observé. Où est-ce que vous avez bien pu trouver le papier? Regardez-moi ça! Pas de chance, les gars, vous l'avez coupé dans une Bible. Quel idiot a déchiré une Bible? » « Et voilà, » dit Morgan. « Qu'est-ce que je disais? Que ça donnerait rien de bon? C'est ce que je disais. » « Ben, votre sort est réglé à présent, » a poursuivi Silver. « Vous vous ferez tous pendre. Ça fait pas un pli. Quel marin d'eau douce à tête molle avait une Bible? » « C'était Dick, » a répondu quelqu'un. « Dick, c'était ? Alors Dick doit faire ses prières, » a dit Silver. « Il peut dire adieu à la chance en bas ce monde. À la chance en bas ce monde. Vous pouvez me faire confiance. » À ce moment-là, un des hommes, un grand avec des yeux jaunes, s'est mêlé à la discussion. « Ferme ça, John Silver, » a-t-il dit. « Cet équipage qui s'est réuni en conseil t'a collé la tache noire comme de bien entendu. Retourne là comme de bien entendu et regarde s'il y a des cris. Après, tu pourras parler. » « Merci bien, George, » a répondu le coq. « T'es toujours allé vite en besogne, et tu sais les règles tellement par cœur, George, que ça fait plaisir à voir. Eh bien, voyons ce que c'est. Ah, déposer. C'est ça, n'est-ce pas ? Très joliment écrit. On jurait que c'est imprimé. Ton écriture, George ? Eh bien, t'es en train de devenir un vrai chef dans cet équipage. Sois gentil. Rends-moi la torche, ma pipe tire pas. » « Arrête ça, » dit George. « T'amuseras pas les hommes plus longtemps. » « D'accord, t'es un marrant à ta façon, mais t'es cuit maintenant, et tu devrais peut-être mieux descendre de ce tonneau pour participer au vote. »« Il me semblait que t'avais dit que tu connais les règles, » a répliqué Silver avec dédain. « Alors si tu les connais pas, moi si. J'attends ici. Je suis toujours votre capitaine, vous voyez, le temps que vous déballez vos plaintes, et ensuite je leur réponds. Entre-temps, votre tache noire, elle vaut pas un biscuit. Après, on verra. »« Oh !» a répondu George, « t'as pas besoin d'avoir aucune appréhension. Nous, on est réglo. » « D'abord, t'as complètement bousillé ce voyage. Tu serais culotté de dire le contraire. Deux, t'as laissé l'ennemi sortir de ce piège à rats sans raison. Pourquoi qu'il voulait sortir, j'en sais rien, mais c'est clair qu'il voulait sortir. Trois, tu ne nous as pas laissé leur tomber dessus quand ils s'en allaient. Mais on te voit venir, John Silver. Tu joues double jeu. Et quatre, il y a ce garçon qui est là. » « C'est toi ?» demandait Silver tranquillement. « C'est déjà pas mal, » a répliqué George. « Vu qu'on ira tous pendre et sécher au bout d'une corde à cause de tes bêtises. » « Bon, maintenant, regardez-moi. Je vais répondre à vos quatre points. L'un après l'autre, j'y réponds. J'ai bousillé le voyage, hein ? Eh bien, vous savez tous ce que je voulais, si on avait fait ce que je voulais. On serait à bord de l'Hispaniola ce soir, comme tous les autres soirs. Tous les hommes seraient en vie, et en forme, et gavés de bon pudding, et avec le trésor à bord, mille tonnerres. Mais qui m'a contrarié ? Qui m'a forcé la main alors que j'étais le capitaine en règle ? Qui m'a collé la tache noire quand on a débarqué et a commencé cette danse ? « Ah, vous parlez d'une belle danse. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Elle ressemble sacrément à une gambille au bout d'une corde sur Execution Dock. Dans cette bonne ville de Londres. Mais à qui la faute ? À Anderson, à Hans et à toi, George Merry. Toi qui es le dernier encore à bord de votre bande de fouines et qui a le diable de culot de vouloir devenir capitaine à ma place. Toi qui nous a coulés tout ce temps qu'on est. Tonnerre, ça c'est plus raide que tout. » Silver a fait une pause. J'ai constaté, d'après les mines de George et un de ses anciens camarades, qui n'avait pas parlé pour rien. « C'était pour le 1 !» a crié l'accusé, en essuyant la sueur de son front, car il avait parlé avec une véhémence à faire trembler le fortin. « Ma parole, ça me dégoûte de vous parler. Vous n'avez ni jugeote ni mémoire, et je préfère pas imaginer ce que faisaient vos mères pour vous avoir laissé prendre la mer. La mer, gentilshomme de fortune. Votre vocation, c'était tailleur, je vous en fiche mon billet.
Continue, John, a dit Morgan. Explique sur les autres points.
Ah, les autres, a répliqué John.
Il y en a un bon paquet, hein. Vous dites que le voyage est bousillé? Bon sang, si vous pouviez comprendre à quel point il est bousillé. On est si près de la potence que mon cou serait dit rien que d'y penser. Vous en avez vu peut-être des pendus à leur chaîne? Les oiseaux sur eux, avec les marins qui les montrent du doigt alors qu'ils descendent à la mer avec la marée? C'était qui, lui?
Il y en a un qui demande. Lui? Ben, c'était John Silver, je l'ai bien connu, répond un autre.
On entend cliquer les chaînes en passant pour arriver à la prochaine bouée.
À présent, c'est à peu près là qu'on en est tous, sans aucune exception.
Grâce à lui, à Hans, à Anderson et aux crétins catastrophiques que vous êtes tous.
Et si vous voulez savoir, pour le point 4 et ce garçon, eh bien que le diable m'emporte. Est-ce que c'est pas un otage? On va gaspiller un otage?
Non, pas nous. Il est peut-être notre dernière chance. Moi, ça m'étonnerait pas.
Le tuer, ce garçon?
Pas moi, les gars.
Et le point 3?
Ah, il y a un paquet à dire sur le point 3. Peut-être que vous comptez pour rien d'avoir un vrai docteur diplômé pour vous voir chaque jour.
Toi, John, avec ta tête cassée, ou toi, George Mary, qui tremblait de fièvre il y a moins de 6 heures et qui a encore les yeux aussi jaunes qu'une peau de citron en ce moment où je parle. Et peut-être vous n'étiez pas au courant qu'un bateau de secours est en route.
Seulement, il y en a un, et il ne tardera pas à arriver, et qui sera content d'avoir un otage quand il sera là.
Et pour le point 2, pourquoi j'ai passé un marché?
D'abord, vous êtes venu me le demander à genoux.
À genoux que vous êtes venu, parce que vous étiez découragé et vous seriez mort de faim si je ne l'avais pas fait.
Mais ça, c'est qu'une bricole. Regardez plutôt ça. La raison, elle est là.
Il a jeté au sol un papier que j'ai reconnu instantanément. Rien d'autre que la carte sur le papier jauni avec les 3 croix rouges que j'avais trouvées dans la toile cirée au fond du coffre du capitaine. Pourquoi le docteur la lui avait-il donnée, dépassait tout ce que je pouvais imaginer?
Si elle était inexplicable pour moi, son apparition a fait un effet incroyable sur les mutins. Ils ont sauté dessus comme un chat sur une souris. Elle est passée de main en main, chacun l'arrachant à son voisin. Et d'après les jurons, les exclamations et les rires puérils qui ont accompagné cet examen, on aurait dit non seulement qu'ils avaient déjà l'or entre les mains, mais qu'ils étaient en mer avec lui en sûreté de surcroît.
« Oui, a dit l'un d'eux, c'est celle de Flint, c'est sûr. JF est un trait au-dessous, avec une demi-clé. Il a toujours signé comme ça. »
« C'est rudement joli, a dit Georges. Mais comment qu'on fera pour partir avec, vu qu'on n'a pas de bateau ?»
Silver s'est levé brusquement et en se tenant au mur d'une main.
« Maintenant, je te préviens, Georges, a-t-il crié. Une autre insolence et tu viens dehors te battre.
Comment on fera? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce sera toi de le dire, toi et les autres. Qu'est-ce la cause que j'ai perdu ma goélette? Parce que vous en êtes mêlés, l'enfer vous brûle.
Mais tu me le diras pas, pas toi. T'as pas plus de cervelle qu'un cafard.
Seulement, tu peux parler poliment, Georges Mary. Il faudra bien que tu le fasses, crois-moi.
C'est plutôt juste, a dit le vieux Morgan.
Juste? Je crois que oui, a dit le coq. Vous avez perdu le bateau, moi j'ai trouvé le trésor. Qui c'est qui est le meilleur? Et maintenant, moi, je démissionne, Miltonnerre. Élisez qui vous plaira comme capitaine, moi j'en ai soupé.
Silver, ont-ils crié, barbecue pour toujours, barbecue, capitaine.
Ainsi, vous changez de refrain, c'est de crier le coq.
Georges, je crois qu'il te faudra attendre un autre tour, mon vieux.
Et t'as de la chance que je suis pas revanchard.
Mais ça a jamais été mon genre. Et maintenant, matelot, cette tache noire, elle ne vaut plus rien, d'accord?
Dick a bousillé sa chance et gâté sa Bible, un point c'est tout.
On pourra toujours continuer de baiser le livre pour jurer, non?
A grogné Dick, que la malédiction qu'il avait attirée sur sa tête mettait visiblement mal à l'aise.
Une Bible avec un morceau qui manque?
A répondu Silver d'un ton ironique.
Pas question, ça garantit pas plus sincèrement qu'un livre de chansons.
Quand même, s'est écrié Dick, avec une sorte de joie. J'estime que ça vaut le coup de l'avoir aussi.
Tiens, Jim, une curiosité pour toi, dit Silver en me lançant un bout de papier.
Il avait à peu près la taille d'une pièce d'une couronne.
À côté était blanc.
Il s'agissait de la première page. L'autre portait un verset ou deux de l'Apocalypse, ces mots entre autres qui se sont profondément gravés dans mon esprit. Dehors les chiens, les assassins. Le côté imprimé avait été noirci avec de la cendre qui commençait à s'en aller en me salissant les doigts. Sur le côté blanc, on avait écrit avec le même matériau « Déposé ». J'ai toujours avec moi cette curiosité, mais il ne reste aucune trace d'écriture, juste une marque, comme on peut en faire avec l'ongle. Ainsi se sont terminées les affaires pour ce soir-là. Sans tarder, après une rasade générale, nous sommes allés dormir. La vengeance de Silver a consisté à charger George Mary de monter la garde
et à le menacer de le tuer
C'est qu'on remplissait mal son rôle de sentinelle. Il m'a fallu longtemps avant de fermer les yeux. Le ciel m'est témoin que j'avais matière à penser. Entre l'homme que j'avais tué cet après-midi, ma situation des plus risquées, et surtout le jeu remarquable que j'avais vu Silver engager. Garder les mutinés ensemble d'une main et de l'autre saisir tous les moyens possibles et impossibles pour faire la paix et sauver sa misérable vie. Lui-même dormait paisiblement et ronflait fort. Pourtant j'éprouvais de la peine pour lui, tout mauvais qu'il était, en songeant aux sombres périls qui l'environnaient et au sort honteux qui l'attendait sur le gibet.